Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Jésus, nous avons soif. Seigneur, nous avons soif. Jésus. Seigneur, nous tous qui chantons ici, Seigneur, ô Jésus, nous avons soif, mon Dieu, soif de recevoir ce que tu as pour nous. Ô Jésus, alléluia. Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous avons soif. Donne-nous à boire de l'eau de la vie gratuitement. Ô Jésus. Dans Jean 7, à partir du verset 37, il est écrit ici: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà, Jésus par ici. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau est une chose indispensable. Est une chose indispensable à la vie. La vie ici-bas dépend de l'eau. La vie ici-bas. Ô Jésus, bénis cette sœur, Seigneur. Bénis cette sœur. Amen. Merci. Ô Jésus. L'eau est une chose nécessaire et indispensable à la vie. Ici-bas, tout dépend de l'eau. S'il y a l'eau, il y a la vie. Pas d'eau, pas de vie. Même dans les terres les plus riches, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Quoique la terre puisse être riche, l'eau est indispensable à la vie, pour qu'elle puisse se manifester. Lorsque la terre est pauvre, mais s'il y a de l'eau, il y aura quand même de la vie. La soif est la chose la plus terrible, elle est plus terrible que la faim. Et on ne peut vivre beaucoup de jours sans boire. Il est impossible de vivre beaucoup de jours sans boire. Rapidement, la mort atteint celui qui est privé d'eau. Le corps s'intoxique de plus en plus et se détruit lui-même par manque d'eau. C'est une chose donc nécessaire à la vie. Pas étonnant que le Saint-Esprit soit comparé à l'eau, car le Saint-Esprit est dispensateur de vie. Le Saint-Esprit, ne vous laissez pas distraire, mes amis, nous annonçons la parole de Dieu. Et nous avons besoin de cette parole, et de la mettre en pratique dans nos vies. Il y a un moment de louange, un moment d'adoration, un moment où l'Esprit parle, un moment où la parole de Dieu doit être annoncée. Et si nous avons et nous pouvons bénéficier d'une bénédiction, quelle qu'elle soit, de l'Esprit de Dieu, c'est à cause de la parole. Sans la parole, il n'y a pas d'esprit. Sans la parole, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, frères et sœurs. L'esprit est dans la parole. C'est pour cela que nous devons connaître, lire la parole à travers la prière, et par elle, nous comprendrons les enseignements de cette parole qui nous fera grandir, et nous pourrons nous désaltérer à la source de l'eau de la vie. Voilà. Pas étonnant que le Saint-Esprit soit comparé à l'eau, car le Saint-Esprit est dispensateur de vie. Dans Romains chapitre 8, verset 11, il est dit, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Si nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous avons en nous l'Esprit de la résurrection. L'Esprit de la résurrection. Et c'est pour cela qu'avec espoir, espoir sûr et certain, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous savons que c'est un esprit de résurrection et que la résurrection avec un corps nouveau nous est promise par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la garantie de la vie éternelle. La garantie de la vie éternelle. Je dis bien, le Saint-Esprit, souvenons-nous, est saint. Et il ne peut rester et demeurer là où il y a de la souillure, là où il y a du mensonge, là où il y a des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est saint. Si nous vivons dans le péché, quoique chrétien, le Saint-Esprit va d'abord nous parler. Il va nous parler à notre conscience, afin de nous amener à la repentance. Et si nous résistons, petit à petit, il va se retirer. Comme l'Esprit de Dieu s'était retiré du temple à Jérusalem, tel que ceci nous est décrit par le prophète Ézéchiel. Il a vu l'Esprit de Dieu se retirer du temple à Jérusalem à cause des idoles que Israël avait mises dans le temple, des idoles affreuses. Et Dieu ne supporte pas de telles choses. L'Esprit ne va pas se retirer d'un bloc, mais il va d'abord parler et encore parler pour amener l'individu à la repentance, à une véritable repentance. Et il sera purifié à cause du sang de Jésus qui a été versé sur la croix de Golgotha. Personne ne peut être purifié sans passer par la repentance, c'est-à-dire reconnaître qu'il est pécheur et s'humilier devant Dieu. Il y a trois choses qui distinguent l'eau vive dont parle Jésus. Dans Jean chapitre 4, versets 13 et 14, Jésus répondit à la femme samaritaine qu'il avait rencontrée près du puits de Sichar en Samarie. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante, c'est-à-dire sous pression, une source jaillissante, jusque dans la vie éternelle. » Voilà. Ça, c'est Jésus qui l'a dit à la femme samaritaine. « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est Jésus qui a prononcé toutes ces paroles. « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui. » C'est-à-dire que cette eau est d'en haut, cachée à l'intérieur de ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Elle est cette source d'eau vive, jaillissante. Elle est à l'intérieur. Elle jaillit à l'extérieur, vers l'extérieur, et c'est une eau vive, une eau sous pression. Elle jaillit de l'intérieur vers l'extérieur. Elle est une vie sainte, sainte, puissante, abondante, débordante, qui se donne aux autres. Le monde a soif autour de nous. Les hommes ont soif de vérité. Ils ont soif de justice. Ils sont fatigués de toutes les violences qu'il y a dans ce monde. Ils ont soif de paix. Venez à Jésus et vous pourrez boire alors. Jésus est celui qui communique la vie. Et quand nous avons cette vie communiquée par Jésus en nous, alors nous sommes une bénédiction pour les autres. Et nous sommes comme une source jaillissante. Cela sort de nous et nous devenons des bénédictions pour les autres. Voilà. C'est Jésus qui a dit cela. Elle deviendra en lui une source, en nous une source. Cet esprit qu'il nous donne deviendra en nous quelque chose qui jaillit sous pression, jaillissante. Une source, c'est quelque chose donc de permanent. Ça sort et ça sort et ça sort. Depuis des siècles et des siècles que le fleuve Congo coule, la source ne s'est pas tarie. Elle sort de quelque part. Cette eau jaillit et alors qu'elle s'écoule, le fleuve grandit et il grandit et il grandit. Alléluia. Telle est cette source qui doit sortir de notre cœur et de notre vie, une source, c'est-à-dire, elle est permanente et ce n'est pas quelque chose de passager. Elle est nourrie, cette source, nourrie par l'Esprit qui habite en nous. Voilà, nous pouvons nous épuiser, qui que nous soyons, mais Dieu ne sera jamais épuisé, jamais. Jamais. L'eau n'y est pas stagnante. Ce n'est pas de l'eau qui reste là sur place, qui avec le temps devient verdâtre, dans lequel toutes sortes de microbes et de parasites grandissent et qui pour finir sent mauvais, elle devient impotable. Mes frères, c'est une source. C'est une source. Ce n'est pas de l'eau stagnante. Ce n'est pas une mémoire du jour où on a été rempli du Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, nous sommes devenus stagnants. Nous pouvons parler du baptême du Saint-Esprit, mais nous sommes devenus stagnants. Il n'y a plus d'influence. Personne ne vient vers nous pour boire et recevoir quelque chose. Nous sommes devenus vides, absolument vides, incapables de communiquer la vie. Nous, la Pentecôte, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, c'est une expérience et c'est une source d'eau jaillissante. L'eau qui sort, elle est pure. Alléluia. Elle est pure et tous ceux qui viennent y boire sont rassasiés. Ils sont satisfaits. Ils ne vont pas chercher ailleurs pour boire. Cette source, c'est Jésus en nous par le Saint-Esprit. Jaillissante dans la vie éternelle. Elle est vivante. Elle donne la vie. Elle est empressée d'agir, sous pression, qui veut se répandre. C'est une source intérieure qui veut sortir, qui demande qu'à sortir et à s'exprimer, et qui par conséquent jaillit, oh frère. Ce jaillissement d'eau, ce n'est pas seulement quand on est en prière et qu'on sent l'Esprit sur soi et que par l'Esprit nous parlons en langue et que l'Esprit nous donne, selon ce que l'Esprit nous donne de s'exprimer. Ça, c'est une expérience personnelle nécessaire, indispensable. Mais une fois que nous avons fait cette expérience, cette source doit continuer à jaillir dans le témoignage, à jaillir dans le comportement de l'individu, dans son amour pour son prochain, dans son amour pour son ennemi. Oui, il apporte à boire. Pourquoi le pécheur est-il pécheur? Parce qu'il ne sait où boire et il essaye à toutes sortes de sources.
de source d'eau empoisonnée, de l'eau stagnante. Il essaye à travers les plaisirs de la chair, jamais satisfait. Il essaye avec l'argent, jamais satisfait. Il essaye avec le pouvoir, jamais satisfait. Il essaye de boire car il a soif. Cette soif le ronge. Il veut boire, mais il ne sait où trouver la satisfaction. Ce qu'il cherche, c'est autour de lui. Ce qu'il cherche, c'est dans ce qu'il fabrique. Mes frères et sœurs, cette source, elle vient d'en haut. Elle jaillit de nos cœurs lorsque nous sommes à Jésus-Christ. Et ceux qui nous entourent peuvent trouver à étancher leur soif à travers la parole de vie qui est une source de vie pour quiconque l'écoute et croit. Il est dit dans la Genèse 2, au chapitre 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » L'homme a perdu ce souffle de vie par le péché. Dieu avait soufflé en l'homme un souffle de vie. Dieu avait averti l'homme, « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, tu mourras. » L'homme a désobéi. L'homme est mort. Car il s'est rebellé contre Dieu. Mais la mécanique, si je puis dire, la mécanique physique de son corps a continué à fonctionner. Mais il n'y a plus eu de source de vie pour renouveler cette mécanique physique, pour l'entretenir. Alors, elle s'est détériorée, elle s'est usée de plus en plus. Et l'homme qui devait vivre éternellement a connu la mort. Quand Dieu avait dit à Adam, « Tu mourras », ce n'était pas une mort physique instantanée. Mais c'était une mort physique qui allait de plus en plus s'exprimer dans son corps, non pas seulement dans son âme, oui, dans son âme, mort quant à Dieu, oui, mais qui allait s'exprimer dans son corps à travers les années de sa vie, car la source de la vie avait été perdue. Et c'est ainsi qu'il a connu la mort. Il n'avait plus de source de vie en lui-même. Ayant perdu la source de la vie, c'est-à-dire l'Esprit Saint de Dieu qui était en lui, cette source de vie s'est tarie à cause du péché. L'homme qui avait soif a voulu boire et il est tombé dans toutes sortes d'aberrations. Il veut la vie, il cherche la vie. Alors, il prend des substituts multiples, car il est séparé de Dieu par le péché, séparé de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Cette eau que quiconque boit, que les hommes boivent, se trouve hors d'eux-mêmes. Voilà. Son lui-même est mort. Son lui-même ne peut produire l'eau de la vie. Quiconque boit de cette eau-ci, aux sources du monde, de cette eau aura encore soif. Il ne peut être satisfait. Alors, cet homme sera tout le temps en quête continuelle pour chercher à étancher sa soif. Il a soif d'amour, il a soif de paix, il a soif de confort, il a soif de satisfaction. Et il cherche, mais il s'empoisonne à des sources polluées, hors de lui-même. Si tu bois de cette eau-ci, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau que je te donnerai sera une source jaillissante jusqu'en vie éternelle. Dans le psaume 42, verset 2, il est dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » La biche, l'antilope, cherche et a soif. Elle doit boire tous les jours. Elle cherche les courants d'eau. Elle soupire après des courants d'eau. C'est un exemple que nous donne le psaume, David dans ce psaume. Et il s'écrit, « Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, car tu es celui qui me satisfait, tu es celui qui me donne à boire. » Cette soif immense, nous la voyons à travers toute la Bible, à travers les hommes, jusqu'à ce jour où les 120 étaient réunis ensemble tous dans un même lieu. Dans un même lieu, ils entendirent subitement le bruit d'un vent impétueux qui remplissait le lieu où ils étaient assemblés. Et il leur apparut des langues de feu. Comme la vie avait été donnée à l'homme à travers le souffle de Dieu, ainsi Dieu souffle à nouveau un souffle de vie sur ses créatures. Ô Dieu, souffle sur nous. Telle est notre prière. Il souffla sur ses créatures, sur ses 120 dans la chambre haute. Il n'a pas soufflé dans le temple. Il n'a pas soufflé sur les pharisiens et les scribes. Il n'a pas soufflé sur les hommes religieux de ce temps qui n'ont rien compris au plan de Dieu, orgueilleux et vantard. Mais il a soufflé sur ce petit groupe de 120 personnes qu'il avait entendu, qui avaient reçu sa parole, auxquelles il avait dit « Vous attendrez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous ». Et là, le souffle de Dieu s'est manifesté tout à nouveau sur ces créatures qu'il fait revivre à travers le sacrifice de son Fils. C'est comme nous avons lu, l'Esprit Saint n'était pas encore répandu, car Jésus n'avait pas été encore glorifié. Glorifié, oh ce mot, est-ce une gloire qu'un homme pendu à un bois et meurt en agonie dans des souffrances atroces? Est-ce une gloire? Oui, pour Dieu, c'est une gloire. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour le monde perdu. C'est le sacrifice volontaire de celui qui nous a tant aimés et qui s'est offert pour notre vie éternelle et notre pardon. Oui, c'est une gloire que se crucifier, car il n'est pas resté sur le bois de la croix, mais il est sorti du tombeau, et il règne dans la gloire maintenant, et il nous donne l'accès à la source de l'eau de la vie, par son esprit qui a été répandu en ce jour de la Pentecôte. L'homme est incapable de connaître Dieu par lui-même. Seul son esprit nous ouvre l'intelligence pour saisir les choses éternelles. Jésus a déjà donné à ses disciples une portion de son esprit lorsqu'après sa résurrection, dans Jean 20, 22, il est écrit plutôt, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est cette portion de l'Esprit que toute personne reçoit à la conversion. Comme il est dit, nous l'avons vu, l'Esprit n'était pas encore répandu, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et ses disciples qui étaient avec Jésus n'avaient pas l'Esprit en eux, en aucune façon que ce soit encore. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient si difficiles à comprendre les vérités. Et combien de fois Jésus s'est exaspéré avec eux. Jusqu'à quand vais-je vous supporter, gens de peu de foi? Vous êtes complètement bouchés. Vous ne comprenez pas les choses de la vie éternelle. C'est vrai, car à ce moment-là, l'Esprit n'était répandu sur personne. Mais une fois que le sacrifice a été offert à la croix de Golgotha, la porte est ouverte et Jésus souffla sur eux et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est le Saint-Esprit que reçoit à la conversion tout homme qui se repent, une action de l'Esprit. Les disciples ne l'avaient pas encore reçu, car il fallait d'abord que le prix du péché soit payé. Ces mêmes disciples sur lesquels Jésus a soufflé, nous les trouvons tous dans la chambre haute en ce jour, alors que le souffle de Dieu remplit cette place, et que des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Actes 2, 4, il est dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Et ils se mirent à parler en langue. Remarquez, frères, ils n'ont pas parlé en langue d'abord. Non, ils ont d'abord été remplis du Saint-Esprit. Et parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. Le parler en langue est la conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous ne cherchons pas à parler en langue, mais nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Et parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons en langue selon que l'Esprit nous donne de s'exprimer comme au jour de la Pentecôte. Il y a des gens qui renversent les choses complètement à l'envers et qui veulent vous faire parler en langue par imitation. Ils parlent à l'oreille et ils disent « Faites comme moi ». Oh non, je ne veux pas de manipulation humaine. Je ne veux pas d'injonction humaine, quelle qu'elle soit. Je veux prêcher la parole et l'Esprit fera ce qu'il veut. L'Esprit fera ce qu'il veut. Si ton cœur est pur, lavé dans le sang de Jésus-Christ, alors tu seras rempli de l'Esprit. Et conséquence, manifestation extérieure, audible, que tout le monde, duquel tout le monde pourra rendre témoignage, tu parleras en d'autres langues. C'est ce qui s'est passé à travers tout le Nouveau Testament. Pour Adam, il avait ce souffle de vie. Il avait cet Esprit de Dieu dans un corps saint, non pollué par le péché. Pour nous, ce souffle de vie, cette source, nous est donnée dans un corps déjà marqué par le péché. Il ne peut vivre éternellement, notre corps physique, tel que nous avons aujourd'hui, sans exception, chacun d'entre nous. Notre corps physique est marqué par le péché, mais Dieu a pris plaisir, si je puis dire ainsi, de remplir, d'abord purifier ce cœur, et remplir ce cœur et ce corps de son esprit. Mais ce corps doit disparaître à cause des marques du péché. Il ne peut vivre éternellement. Aucun corps physique que je puis voir ce matin ne peut vivre éternellement. Un nouveau corps, alors, nous sera donné bientôt. Comment ? Par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la résurrection et qui habite en nous. Oh, merci Jésus. Jésus a dit dans Jean 4, 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » C'est ce que nous cherchons et qui ne nous satisfait jamais. Ce sont des choses qui sont en dehors de nous. Voilà, nous cherchons des choses qui sont en dehors de nous et qui sont incapables de nous satisfaire. Avez-vous entendu parler d'un riche satisfait qui dit « j'ai assez d'argent, j'ai assez de voitures, j'ai assez de maisons » Non, jamais satisfait. Car l'homme ne peut pas être satisfait par les choses extérieures qui sort de lui-même et qu'il a fabriqué, Mais ce que Jésus donne est une source placée en nous, quelque chose qui ne nous appartient pas. Sachez bien, comprenez mes frères, que cet esprit ne nous appartient pas, que nous devons garder précieusement, et ne pas le perdre. Il y en a qui le perdent. Il y a beaucoup de choses à dire, comme par exemple, dans 2 Rois 6, versets 1 à 7, nous voyons là ce fils des prophètes qui était avec le prophète Élisée au bord du Jourdain pour couper du bois, pour agrandir le lieu où ils étaient. Et il avait emprunté sa hache. Et alors qu'il battait le tronc de son arbre pour en tirer une poutre pour la construction de l'élargissement de leur école biblique, le fer de la hache est tombé dans l'eau. Il n'a pas continué à battre l'arbre avec le manche. Oh non! Oh frère, ce qui fait le résultat, c'est le fer, ce n'est pas le manche. Oh, mais beaucoup ont perdu le fer. Beaucoup ont perdu le fer depuis longtemps. Et ils continuent à battre l'arbre. Ils n'ont aucun résultat. Alors ils fabriquent des résultats qui sont des œuvres de la chair pour prouver que Dieu est avec eux. Attention, mes frères, nous ne pouvons apporter du feu étranger devant le Dieu puissant. Oh, vous vous souvenez, comme dans l'Ancien Testament, comme les fils d'Aaron ont pris du feu étranger et la colère de Dieu s'est manifestée contre eux. Nous n'avons pas le droit de fabriquer quelque chose qui n'est pas inspiré par Dieu dans le contexte de sa parole. Qui que vous soyez, vous avez été appelé, vous êtes sacrificateur du Dieu vivant, prédicateur, vous êtes des hommes choisi par Dieu, mais dès l'instant où vous voulez faire quelque chose par vous-même qui n'a pas été instruit par Dieu et que vous apportez devant Dieu du feu étranger, frère, attention, la colère s'embrasera contre toi. Le feu doit venir de l'autel. Le feu doit venir de l'autel. S'il y a un feu de la Pentecôte, c'est à cause de l'autel de Golgotha. C'est le feu vient de l'autel et de nulle part ailleurs. Tu ne peux pas fabriquer le feu en excitant artificiellement la foule par des chants, par des danses, par de la musique, par je ne sais quoi, par des suggestions, en les jetant par terre. Non, mon frère, feu étranger, sois attentif, fais attention par des soi-disant prophéties, en suggérant des choses qui ne viennent pas de toi, mais qui viennent de toi plutôt, et qui ne viennent pas de Dieu. Attention! Aujourd'hui, tant de gens qui se disent prophètes et qui racontent n'importe quoi, un feu étranger. La colère de Dieu est contre de telles pratiques. Beaucoup ont perdu la hache depuis longtemps, le fer de la hache depuis longtemps, et ils battent les arbres avec un manche sans fer, et ils veulent provoquer du résultat, mais un résultat qui ne demeure pas, un résultat qui ne change pas les vies. Ils sont toujours pécheurs, ils sont toujours esclaves de Satan, et en plus de cela, on y a ajouté l'hypocrisie. Oh mon Dieu, pardonne-nous, garde-nous de tomber dans ces travers. Il n'a pas continué à battre son arbre avec le manche. Il est allé vers l'homme de Dieu, le prophète, et il lui a dit, j'ai perdu le fer de ma hache. Oh, oh, il était emprunté. Je n'en avais pas, mais il était emprunté. Oh Jésus, cet esprit qui est en nous ne nous appartient pas. Il nous a été prêté pour le service. Que faites-vous avec? L'avez-vous perdu, mon frère? L'as-tu perdu? Si tu l'as perdu, reviens et dis, Seigneur, je l'ai perdu. Le prophète lui dit, où est-il tombé? Il lui montra en plein centre du fleuve Jourdain. Que fit le prophète? Il prit un morceau de bois et il le jeta à l'endroit indiqué. Et le fer surnagea. Et il lui dit, prends-le. Et il continua son travail. Oh, mes frères, à cause de cette croix maudite du calvaire, à cause de ce bois maudit où Jésus a été pendu, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Oui, le fer surnagera. Cette puissance de l'Esprit, elle est pour tous ceux qui humblement viennent au Seigneur et disent au Seigneur, « Oh mon Dieu, j'ai perdu ce que tu m'avais donné. Je l'ai reçu un jour, je m'en souviens. C'était merveilleux, mais je ne fais que de parler d'une expérience du passé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité en moi. Il n'y a pas de puissance en moi. Oh mon Dieu, je m'en souviens, c'est vrai. Mais je fais des artifices pour donner l'illusion que tu es avec moi. Pour donner l'illusion que tu es avec moi. Oh mon Dieu, et j'ai amené à ton autel, j'ai amené devant toi, dans les encensoirs, devant toi, mon Dieu, du feu étranger. Ce n'est pas le feu qui sort de l'autel de Golgotha. Oh, sois apaisé envers moi, Seigneur, que ta colère ne tombe pas sur moi. Ne perdons pas ce que Dieu nous a donné. Si nous l'avons perdu, reconnaissons-le. Et ne faisons pas comme si nous l'avions encore. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qu'il jaillira jusqu'en vie éternelle. Voilà ce que Jésus disait. Moi, j'ai l'eau qui satisfait. Moi, je peux te donner ce dont tu as besoin. Je peux te le donner et je ferai que ceci, ce que je te donne, jaillira de toi-même sans jamais s'épuiser. Jaillira de toi-même, quel que soit le nombre de tes années, quelle que soit la capacité intellectuelle qu'elle attienne au point de vue naturel. Si seulement je te remplis, tu feras des exploits. Si vous lisez l'histoire de l'Église, vous verrez que des hommes du peuple, sans grande instruction, ont enflammé des territoires immenses de leur pays à cause de la source d'eau qui était en eux. Je pense à ce plombier anglais dans le siècle passé qui a appris à lire lorsqu'il était marié, adulte. Il ne savait pas lire avant et Dieu l'employait d'une façon extraordinaire à tel point que quand il prêchait, il y avait des milliers d'hommes et de femmes qui venaient. Et quand il y avait des esprits mauvais dans des personnes qui étaient là, immédiatement, il savait, tout le monde savait qu'il serait délivré. Il arrêtait son sermon, il descendait, il posait sa main, il chassait les mauvais esprits. La personne était délivrée et il continuait à prêcher. C'est un homme qui a marqué son temps et il n'a jamais eu un doctorat en théologie. Il n'a jamais eu un diplôme de maîtrise en théologie. Jamais, mais seulement, il était à l'école de Dieu. Combien d'hommes et de femmes oublient l'école de Dieu? Combien d'hommes et de femmes oublient cette plénitude de l'esprit? Frères et sœurs, je préfère entendre un ignorant selon le monde, rempli de l'Esprit, qui annonce la parole sous l'onction, qu'un homme plein de connaissances du monde, c'est vrai, et qui a bien étudié la parole de Dieu, mais qui est devenu sec. Oh mon Dieu, renouvelle en nous cette source jaillissante. Soyons des hommes ambitieux, pour communiquer l'eau de la vie, l'Esprit de Dieu au monde qui nous entoure. Je n'ai rien contre les études de la parole de Dieu. Mais je dis attention, n'oublions pas, peut-être que nous avons perdu le fer. Frères, sœurs, peut-être que nous avons perdu le fer. Il y a parmi nous des gens très intelligents. Frères, que Dieu vous utilise. Mais il pourra mieux vous utiliser quand vous serez véritablement remplis de l'Esprit et que vous aurez en vous une source d'eau jaillissante. Et si vous avez perdu le fer, il est temps maintenant de dire, Seigneur, je le reconnais, j'ai perdu ce que tu m'avais donné. Il est écrit dans le psaume 36, 10, « Car auprès de toi est la source de la vie. Car auprès de toi est la source de la vie. La vie, Seigneur, j'ai besoin de plus de vie. Moi qui te parle, moi qui parle aujourd'hui, je n'ai pas assez, je veux plus, oh Dieu. N'as-tu pas dit, celui qui demande recevra, et je te demande plus encore, afin, Seigneur, que ma vie tout entière soit comme une source auquel les hommes puissent se désaltérer. Car c'est ce que tu as voulu, Seigneur, que nous devenions une source d'eau vive. Ô Dieu, comment se peut-il que ce qui est en Dieu puisse être en nous? Cela n'est possible que si Dieu est en nous. Et comment Dieu peut-il être en nous? Il peut être en nous par son esprit. C'est avoir Dieu en nous. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, c'est avoir Dieu en nous. C'est pourquoi nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ô Dieu, donne-nous d'être conscients de cette vérité et garder ce temple pur. Et par la présence de l'Esprit en nous, nous devenons une source qui ne tarira jamais, jamais, pour autant que nous restions en communion avec le Dieu vivant. Dieu en nous fait jaillir cette source de vie. Nous donnons la vie, nous engendrons la vie, nous communiquons la vie. Voilà le rôle du vrai chrétien rempli de l'Esprit, un communicateur de vie. Quand vous insultez les autres, il n'y a pas de vie. Quand vous parlez méchamment aux autres, il n'y a que du poison. Quand vous faites des actes mauvais, n'est-ce pas, de vengeance, de jalousie et de toutes sortes de choses, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Chrétiens, je vous en supplie, soyez des communicateurs de vie. Lorsque vous vous énervez inutilement et que vous interprétez de façon illogique des paroles que vous avez entendues et qu'à cause de cela vous vous vexez et que vous vous mettez en colère, vous n'engendrez pas la vie. L'homme de Dieu, c'est un homme patient. L'homme de Dieu, c'est un homme qui supporte. L'homme de Dieu, c'est un homme qui cherche toujours, toujours à le bien dans l'autre. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va être peiné, mais il va chercher à rectifier, à aider l'autre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, exhortez-vous les uns les autres. Ne soyez pas des semeurs de poison, vous chrétiens. Non! Attention à ce petit membre qui est dans la bouche, qui est dans la bouche et qui jette trop souvent du poison. Oh mon Dieu, si vous n'avez pas de maîtrise de votre caractère, demandez pardon à Dieu jusqu'au jour où vous aurez l'attitude de Jésus-Christ. Mettez-vous en colère contre le péché. Mettez-vous en colère contre les œuvres du diable. Mais ne vous mettez pas en colère contre votre frère ou votre sœur. Soyez des engendreurs de vie et non pas de mort, et non pas de condamnation et de jugement. Temple de Dieu, voilà ce que vous êtes. Voilà. C'est une source, ce n'est pas un puits. C'est une source, ce n'est pas une citerne. Jérémie 2,13 nous dit, « Ils ont abandonné, moi, source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Oh, la Pentecôte, voilà ce que c'est. La Pentecôte, c'est une source d'eau vive, une source d'eau vive qui sort de nous-mêmes. Vous avez reçu une portion du Saint-Esprit le jour où vous avez cru. Merci Seigneur, mais il vous faut encore cette plénitude du baptême du Saint-Esprit, un revêtement de puissance, un revêtement de puissance. Alors, vous cherchez ce baptême du Saint-Esprit. Baptême pourquoi? Parce que plongé, Baptême veut dire plonger. Plonger, voilà, plonger dans l'esprit. Quand on vous plonge dans l'eau pénètre partout, dans les cheveux, dans les yeux, partout, dans le corps. Tout est mouillé, mouillé, mouillé. Vous êtes habillé, mais tout est mouillé. Voilà, plonger dans l'esprit, rempli de l'esprit. Les oreilles, les yeux, la bouche, le nez, tout rempli de l'esprit, plonger dans l'esprit. Et c'est ça que nous voulons. Et parce que vous êtes plongé dans l'esprit, la conséquence, quelque chose de spécial va se passer. Quelque chose de miraculeux va se passer. Vous parlerez dans des langues inconnues, que vous ne connaissez pas. Peut-être que d'autres connaissent. Combien de personnes n'ai-je pas entendues qui ont parlé des langues qu'ils ne savaient pas, mais avec un message pour quelqu'un qui connaissait cette langue, comme ce vieux portugais qui était malade, malade, quelque part en France. Le pasteur est venu pour prier pour lui. Et le Saint-Esprit a saisi ce pasteur. Et il a parlé. Il a parlé un dialecte portugais, même pas le vrai portugais, le dialecte portugais du village de ce vieux papa, en lui disant, je te connais, je veux te guérir, maintenant prends courage. Alléluia. Et cette femme qui ne savait pas l'hébreu, elle ne savait pas l'hébreu, non, mais dans cette salle, ce dimanche matin, il y a eu un parler en d'autres langues. Okay, ce professeur qui était là, professeur de langue ancienne, il a entendu cette langue, il a immédiatement réagi. Et après le culte, il a dit au pasteur, je voudrais voir cette personne qui a parlé en hébreu parfait, parfait. Je n'ai jamais entendu une langue aussi pure. Alors le pasteur est étonné, mais non, on n'a personne, on est plutôt des gens du peuple ici. On n'a pas de grand érudit. Oh non, 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 moi je sais, je suis professeur de langue ancienne. Je veux voir, le pasteur a pensé. Il a appelé la petite femme. Bien sûr, elle ne savait pas l'hébreu, mais Dieu et l'Esprit de Dieu le savaient. Le savaient pourquoi? Parce que cet homme avait besoin de quelque chose pour lui montrer que le Dieu puissant était présent dans cette place et que le Dieu puissant voulait le sauver. Frères et sœurs, ces choses arrivent, elles arriveront encore. Je crois à tous ces dons de l'Esprit. Mais ces dons de l'Esprit doivent être conduits selon l'Esprit et non pas selon la chair. Frères et sœurs, oh que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à avancer dans le chemin de la sanctification. Béni sois-tu. Nous allons maintenant prendre cette communion. Baissons la tête. Nous allons prendre ensemble cette communion, frères et sœurs, devant le Seigneur, en nous rappelant que sans la croix, il n'y a pas de Pentecôte. Sans la croix, il n'y a pas de Pentecôte. Seigneur, mon Dieu, nous voulons te louer, te bénir, te remercier pour l'œuvre que tu accomplis. Car, Seigneur, nous savons que sans la croix, il n'y aurait pas eu de Pentecôte. Ô Jésus, 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 Jésus. Que pouvons-nous dire aujourd'hui, Seigneur, en 2009, alors que nous approchons de la fin, alors que tu viens bientôt, plus que jamais nous avons besoin de ton assistance. Mon Dieu, nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de ton esprit. Nous voulons plus de ta présence. Nous voulons plus, ô Dieu, ô Jésus, afin que, à travers chaque membre de ton Église, le message parcourt ce pays et parcourt la terre. Sauve encore pendant ces derniers temps. Seigneur, nous voyons ton pays, Israël. Israël qui a été remis en place tel que tu l'as voulu. Nous voyons que plus en plus, les nations s'élèvent contre ton peuple. Ceci est selon tes Écritures, tu nous en parles. Mais c'est ta terre, et Seigneur, c'est un grand signe de la fin des temps dans lesquels nous vivons. Ô Dieu, veux nous assister maintenant, afin que nous fassions notre part dans cette fin des temps. Seigneur, s'il te plaît, maintenant nous allons prendre cette communion. Nous allons prendre cette communion. Ce pain représente ton corps brisé pour nous. Nous avons déjà brisé ces pains en petits morceaux, mais c'est le symbole de ton corps brisé pour nous. Et dans ton corps, Seigneur, et dans tes meurtrissures, il y a la guérison. Donne-nous de saisir cette guérison par la foi, alors que nous prenons cette communion maintenant. Merci, Père, merci. Et de même, Seigneur, tu pris la coupe et tu leur dis, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Prenez-en tous. Cette coupe contenait du vin, du fruit de la vigne qui représentait ton sang versé, versé pour le péché des hommes. Si nous prenons de cette coupe maintenant, Seigneur, c'est un mémorial de ce que tu as fait pour nous. Ô mon Dieu, donne-nous de juger notre cœur maintenant devant toi. Si nous ne sommes pas en communion avec ton Église et que nous vivons dans le péché, loin de toi, Seigneur, donne-nous de le reconnaître et de ne pas prendre cette communion. Ce serait un jugement contre nous-mêmes. Mais Seigneur, que ceux qui ont été lavés par le sang de la croix, que ceux qui, dans leur conscience, savent qu'ils sont en règle avec toi, qu'ils prennent cette communion, que ce soit une bénédiction pour eux. C'est pour cela que je demanderai à ceux qui veulent prendre la communion de se lever. Ceux qui préfèrent ne pas la prendre, qu'ils restent assis. Chacun est juge pour lui-même.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.